Laudetur Jesus Christus.
Début de l'Avent hier et de la nouvelle année liturgique, lors de l'Angélus, le pape a appelé au réveil de nos âmes et à vaincre l'assédie, cette paresse spirituelle qui ne nous porte pas vers le bonheur. Nous y revenons juste après les titres. Hommage du pape au Caritas et à toutes les personnes engagées auprès des migrants, des paroles réconfortantes prononcées lors de l'Angélus, notamment pour les membres du Secours catholique à Calais, surtout après la noyade dans la Manche mercredi de 27 personnes. Omicron, le nouveau variant de la Covid-19 qui inquiète les autorités du monde entier. Plusieurs pays ferment de nouveau leurs frontières, comme Israël, où deux cas, pour le moment, ont été détectés. Les troupes ougandaises dans l'est de la RDC pour combattre les rebelles des ADF. Le président congolais aurait donné son accord, mais cette décision provoque une vive polémique. Maintenir une présence chrétienne à Alep et en Syrie, un défi pour l'église locale. Monseigneur Odo, l'évêque chaldéen d'Alep, nous en parlera dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, premier jour de l'Avent. Hier, l'Église universelle est entrée dans ce temps d'attente et d'espérance en préparation à Noël. Lors de l'Angélus hier, le pape François a délivré une forte catéchèse place Saint-Pierre consacrée à l'éveil et au réveil des âmes face au premier des ennemis spirituels, à savoir l'assédie. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
Malgré les crises de la vie et drames de l'histoire, c'est au moment où tout semble fini que Dieu vient nous sauver, à commencer par rappeler le pape. Il ne faut donc pas avoir peur, mais se redresser et relever la tête, car Dieu viendra, a-t-il encouragé. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse, restez éveillés, priez en tout temps.
Vigilare significa questo. Non permettere che il cuore si impigrisca e che la vita spirituale si ammorbidisca nella mediocrità.
La vigilance signifie ceci: ne permettez pas à votre cœur de devenir paresseux, ni à votre vie spirituelle de se ramollir dans la médiocrité, a affirmé le successeur de Pierre, mettant soigneusement en garde contre les chrétiens endormis. Nous le savons qu'il y en a beaucoup, des chrétiens anesthésiés par les mondanités, a-t-il regretté. Sans élan spirituel, sans ardeur dans la prière, cela conduit à la somnolence, l'inertie, l'apathie, l'habitude, le fauteuil de la paresse, une vie triste, en somme, sans bonheur, soupire le pape. L'assédie est tout cela en même temps, elle est cette paresse qui plonge dans la tristesse, elle est un esprit maléfique qui enferme l'âme dans la torpeur, la privant de joie. Un remède est avancé par le pape, la prière. Elle est la lampe du cœur, elle réveille l'âme du sommeil et la concentre sur ce qui compte, sur le but de l'existence. Même dans les journées les plus chargées, ne négligeons pas la prière, a enfin souhaité le souverain pontife.
Delphine Allaire. Après la prière de l'Angélus, le pape est revenu sur le sort des migrants aux confins de l'Europe et notamment ceux qui ont péri mercredi au large de Calais dans la Manche. Il a évoqué également les personnes coincées en Afrique du Nord qui sont capturées par des trafiquants qui les réduisent en esclavage. Ils vendent les femmes, ils torturent les enfants, déclarait François. Sachez que je vous suis proche, a-t-il ensuite confié, avant de renouveler aux autorités civiles et militaires son appel afin que la compréhension et le dialogue prévalent finalement sur tout type d'instrumentalisation et oriente les volontés et les efforts vers des solutions qui respectent l'humanité de ces personnes. François en a profité aussi pour remercier toutes les institutions, qu'elles soient de l'Église catholique ou d'ailleurs, spécialement les Caritas nationales et tous ceux qui sont engagés pour soulager les souffrances des migrants. Des paroles réconfortantes, notamment pour Juliette Delaplace. Elle est chargée de mission auprès des personnes exilées sur le littoral nord au Secours catholique Caritas France.
C'est un honneur, c'est un soutien moral et spirituel extrêmement important pour nous, parce que les bénévoles, les salariés qui se mobilisent aujourd'hui aux côtés des personnes exilées à la frontière franco-britannique n'ont pas l'habitude de ce type de soutien de la part des autorités ici, qui ont plutôt tendance à jeter l'opprobre sur notre travail, à le critiquer. Vous savez qu'ici à Calais, il y a eu 16 arrêtés qui interdisent les associations de distribuer à boire et à manger aux personnes exilées. Donc on travaille plutôt dans un contexte d'hostilité. Et donc avoir le soutien du pape, eh ben c'est quelque chose de très fort, de très important pour nous, parce que nous on croit à ce que l'on fait, on croit en la charité, on croit en la fraternité, mais le contexte d'hostilité à notre égard, eh ben parfois est douloureux, parfois est difficile. Donc c'est vraiment un soutien important, c'est un soutien qui nous donne évidemment de la force, de la confiance et puis de l'espoir aussi.
Juliette de la place du Secours catholique à Calais, une interview à retrouver sur notre site internet. Calais, où s'est tenue d'ailleurs hier une réunion des ministres ou responsables chargés de l'immigration français, allemand, néerlandais et belge, ainsi que la présidente de la Commission européenne et des directeurs d'Europol et de Frontex. Un avion de l'Agence européenne des frontières sera déployé dès mercredi en Manche pour surveiller le littoral. Les participants se sont engagés à tout mettre en œuvre pour lutter plus efficacement contre les réseaux criminels de passeurs. Autre résolution, celle de coopérer avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui était le grand absent de cette réunion, la France lui ayant retiré son invitation et participé pour protester contre la proposition de Londres de renvoyer sur le continent tous les immigrés illégaux. La ministre britannique de l'Intérieur a prévu cette semaine toutefois des entretiens urgents avec ses homologues européens. Le gouvernement britannique mobilisé pour un autre sujet sanitaire, cette fois Londres, qui préside ce mois-ci la présidence tournante du G7, convoque aujourd'hui une réunion d'urgence des ministres de la Santé du groupe pour affronter la question du variant Omicron de la Covid-19, variant qui inquiète les autorités à travers toute la planète. Londres a déjà prévu notamment de rendre obligatoire le port du masque dans les transports et les magasins à compter de demain. Mais d'autres pays ont déjà décidé de refermer leurs frontières. C'est le cas d'Israël. Alors que deux cas du variant Omicron y ont été détectés, les étrangers ne peuvent plus donc entrer et les Israéliens, trois fois vaccinés, devront eux respecter un isolement de 72 heures à leur arrivée. À Tel Aviv, Lucas de Villepin.
La réouverture des frontières aux étrangers aura duré moins d'un mois. Depuis minuit, les touristes ne peuvent plus entrer en Israël en raison de la propagation du variant Omicron. Retour également de la quarantaine à l'arrivée. Une semaine pour les Israéliens non vaccinés, 72 heures pour ceux qui ont reçu 3 doses. Une cinquantaine de pays africains ont été classés rouges par les autorités sanitaires. Autrement dit, les Israéliens ont interdiction de s'y rendre sous peine d'une forte amende. Le gouvernement a aussi signé un décret d'urgence qui autorise les services de sécurité intérieure à traquer les téléphones portables de personnes entrées en contact avec celles infectées par la nouvelle souche. Pour le moment, ces mesures sont en vigueur pour 2 semaines, mais elles pourraient être étendues si la dangerosité du variant est confirmée. Avec seulement 2 cas enregistrés, la situation reste sous contrôle, mais Israël préfère prévenir que guérir, alors que la fête juive de Hanouka, synonyme de rassemblement, a débuté hier. Lucas de Villepin, Tel Aviv, pour Radio Vatican.
Le Japon a lui aussi décidé de refermer ses frontières à tous les visiteurs étrangers. 3 semaines après avoir assoupli certaines restrictions pour permettre l'entrée des voyageurs d'affaires, étudiants et stagiaires étrangers. En Autriche, des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce week-end contre l'obligation vaccinale alors que le pays est confiné depuis une semaine. Quant aux Suisses, ils ont approuvé hier par référendum l'instauration d'un pass Covid. Le oui l'a emporté avec 62% des suffrages. Le certificat Covid est réservé aux personnes vaccinées ou guéries ou ayant fait un test. Il est exigé pour entrer au restaurant ou dans un bar, mais aussi pour voir une exposition, un film ou un événement sportif en intérieur. Des soldats ougandais bientôt au Nord Kivu pour combattre les rebelles des ADF. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, aurait donné son feu vert, ce qui provoque une vive polémique en RDC. Le premier à s'y opposer est le prix Nobel Denis Mukwege, qui est contre une entrée sur le sol congolais des troupes ougandaises. Cette annonce, en tout cas, intervient 2 semaines après une double explosion survenue à Kampala, la capitale ougandaise, et attribuée par les services de sécurité ougandais à un groupe local lié aux SDF. À Kinshasa, les précisions de Pascal Moulégois.
Aucun communiqué officiel n'a jusqu'ici confirmé cette opération tant réclamée par les présidents ougandais depuis plusieurs années. De sources onisiennes, c'est depuis plusieurs mois que le président congolais Félix Tshisekedi chérit cette option pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri considérées comme sanctuaires ou bases arrières de l'ADF. Tshisekedi a récemment informé la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, de sa décision de permettre l'arrivée prochaine des militaires ougandais. Le président n'aurait donné qu'un accord verbal et son homologue attendrait l'officialisation écrite. Ces accords entre Tshisekedi et Museveni sont inacceptables et tranchent Denis Mukwege. Il fulmine contre, je cite, « les pyromanes pompiers » et les rappelle que les mêmes erreurs produiront les mêmes effets tragiques. Côté Parlement, l'on n'est pas encore saisi, a déclaré un membre du bureau de l'Assemblée nationale juin dimanche. Pascal Moulégois, Kinshasa, Radio Vatican.
Et en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, 22 civils ont été tués hier dans une nouvelle attaque contre un camp de déplacés, moins d'une semaine après une attaque similaire, ayant fait elle 29 morts sur un site voisin. Annonce faite par la Croix-Rouge locale qui accuse les miliciens du groupe Coopérative pour le développement du Congo, la CODECO, d'être responsables de ce massacre. 10 ans de guerre, 5 ans de crise économique profonde, la Syrie est exsangue. 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 60% des Syriens sont en situation d'insuffisance alimentaire. Les sanctions internationales affectent durement des centaines de milliers de familles qui, pour se nourrir ou se soigner, dépendent totalement de la solidarité des organisations caritatives. Un contexte qui engendre un fort désir de quitter le pays en prenant souvent d'énormes risques. Les chrétiens sont proportionnellement les plus nombreux à quitter la Syrie. Dans la seule ville d'Alep, où nous avons rencontré Mgr Antoine Odo, ils étaient 150 000 avant la guerre contre seulement 30 000 aujourd'hui. Pour l'évêque chaldéen, le maintien d'une présence chrétienne bimillénaire passe par la formation des laïcs.
C'est très important, cette présence vivante, continue, sans interruption, depuis l'annonce de l'évangile jusqu'à maintenant. Et pour moi, c'est très important le fait que ce soit des chrétientés inculturées dans la culture arabe et musulmane. Nous avons la capacité, vous le voyez ici, dans nos pays, au Liban, en Syrie, en Irak, la capacité de vivre avec des musulmans, de les comprendre. Il y a des difficultés, bien sûr, et même parfois des discriminations. Cette présence dans ce monde arabe et musulman a une grande signification. Et à travers nous, nous sommes censés donner une réponse. Et j'ai la profonde conviction. Pour cela, il faut former des laïcs avec une nouvelle colonne vertébrale, des laïcs chrétiens dans nos pays, capables de se tenir debout et de regarder en face les musulmans et de dialoguer avec eux et de rendre témoignage de leur foi. Ne pas rester dans une attitude de peur et de fuite et les musulmans croient que c'est une affaire de temps et d'expansion de l'islam par le nombre et par la force et par la défaite du christianisme. C'est un peu la mentalité un peu ambiante, malheureusement, même parfois en Europe.
Il faut pour cela empêcher les jeunes de partir parce que...
Absolument. Tout ce que nous faisons pour cela, mais avec cette crise économique, cette insécurité, des horizons fermés. Et puis après, aujourd'hui, avec les médias, l'Internet, les télévisions, ils voient tout ce qui se passe dans le monde. Donc l'attrait de l'Occident est très fort. Et déjà, la moitié de nos familles sont déjà outre Atlantique, au Canada, aux États-Unis, en Europe, etc.
Alors, les chrétiens de Syrie aujourd'hui, et les Syriens en général, dépendent beaucoup de la solidarité internationale. Est-ce que on peut penser qu'un jour, cette solidarité internationale ne sera plus nécessaire? Est-ce que vous avez quelques lueurs d'espoir?
Oui, toujours, parce que s'il y a la paix, s'il y a la sécurité, s'il y a une stabilité politique, le travail va reprendre, parce que la Syrie, c'est un pays riche. Mais combien de temps il faut attendre? Je ne saurais pas le dire, mais nous sommes vraiment fatigués de cette situation de crise et de pauvreté et même de misère.
Vous pensez que les conditions peuvent être réunies bientôt pour une levée des sanctions?
On voit qu'il y a un petit changement. Un responsable des pays du Golfe est venu visiter le président syrien. Il y a l'ouverture des frontières avec la Jordanie, avec l'Irak. Les communications vont mieux au niveau économique. Il me semble des déclarations du président égyptien pour que la Syrie reviennent à la Ligue arabe. Il y a des signes et il me semble que ça peut être un prélude d'un changement d'attitude et de politique au niveau international.
Interrogé à Alep par Jean-Charles Puzzolu, Mgr Odo était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain tour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.